toute la vie dans les Alpes du Sud. Alpes 1 Magazine.
On va parler vol relatif, on va parler parachutisme, on va parler chute libre. Ce matin sur l'antenne d'Alpes 1, nous avons deux sportifs, deux champions à nos micros en direct ce matin. Nous accueillons Jeff Ronceval.
Bonjour. Bonjour Jean-Philippe, bonjour à tous les auditeurs d'Alpes 1.
Vous êtes, vous, champion, vous participez régulièrement à des compétitions de vol relatif. On vous connaît depuis de nombreuses années. Patrick Passe, qui est dans le même milieu, champion également. Bonjour Patrick.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Et vous êtes organisateur technique, c'est-à-dire que c'est vous qui préparez et qui organisez les rassemblements et les figures. Parce que le vol relatif, la chute libre, pour qu'on explique aux auditrices, aux auditeurs, c'est de la chute libre. Ensuite, vous vous réunissez et vous faites une figure dans les airs. Et vous avez une minute pour le faire.
Ouais, le vol relatif, c'est une des disciplines du parachutisme qui consiste à sortir d'un avion, ne pas ouvrir le parachute tout de suite, faire des figures, se regrouper, faire un certain travail en chute libre, puis au moment donné, au moment où il faut ouvrir son parachute. Mmh. Voilà, donc il y a des épreuves de vol relatif à 4, des épreuves de vol relatif à 8 en compétition internationale, et il y a une autre discipline du vol relatif qui est la grande formation. Et donc là, on est dans un cas de grande formation.
Oui, parce que vous êtes avec nous ce matin pour revenir sur le record que vous avez établi. C'était en Égypte le 16 novembre dernier. Un record d'Égypte, un record africain. Vous étiez combien et quelle était l'idée de ce record? Comment est née l'idée? Je crois que Patrick Passe, c'est vous qui avez eu cette idée. On s'est dit, on va partir en Égypte à plusieurs.
Oui. Donc j'ai été contacté par l'entité qui s'appelle Skydive Pharaoh. Ce sont des parachutistes égyptiens. Le parachutiste est pas énorme dans ce pays-là. Ils invitent beaucoup de gens depuis 6 ans. Ils voulaient renouveler un petit peu ce qu'ils font depuis 6 ans. Et ils ont eu l'idée donc d'avoir un événement où on pouvait réaliser une grande formation. Ils m'ont contacté. Et bon, comme c'est ma spécialité, j'ai dit oui tout de suite, sauter au-dessus des pyramides, faire une grande formation au-dessus des pyramides, ça n'a jamais été fait. Je savais que ça allait intéresser beaucoup de monde. J'ai invité les gens, j'ai eu des retours super rapidement et puis l'aventure a commencé comme ça.
Donc 50 sportifs, 50 paras qui ont répondu à votre appel et qui venaient d'où?
Alors il y a eu à peu près 80 personnes intéressées. Bon, quand un tel événement a lieu, il faut faire la meilleure sélection qu'il soit parce que le but c'est de faire le challenge de le réaliser le plus rapidement possible. Donc j'en ai sélectionné un peu plus de 50. On est arrivé finalement à 50 piles. Il y a eu 2-3 malades et on était 50. Je tenais vraiment à ce qu'on soit au moins 50, pas 48, pas 47, mais 50. C'est un joli chiffre. Ça sonne mieux. C'est un chiffre rond. Et ces gens-là venaient d'un peu partout dans le monde. Il y avait beaucoup d'Européens. Il y avait 17 Français. Mais il y avait aussi des Américains, des Australiens, Néo-Zélandais, ça venait d'un peu partout du globe. Et voilà, ce sont des événements qui attirent beaucoup, beaucoup de gens de par le monde entier. Et là, ça a été le cas à nouveau pour l'Égypte.
Mmh. Bravo pour ce record. On invite les auditrices et auditeurs à aller sur Facebook pour voir à quoi ressemble, puisqu'il y a une vidéo et une photo, évidemment.
Ah, il y a même plusieurs photos, oui, puisqu'on a fait, en tout, on a fait 6 sauts. C'est extraordinaire de sauter sur un lieu mythique qui a plus de 5000 ans d'histoire. Quand on est au sol, déjà, les pyramides, c'est magnifique. Mais quand on est au-dessus, avec les images qu'on a pu faire, avec les personnes en chute au-dessus, c'est vraiment, c'est quelque chose qui prend au trip. On n'avait pas envie de se poser. On était trop bien là-haut, que ce soit en chute ou parachute ouvert. C'est vraiment un paysage magnifique avec ces 3 pyramides. C'est vraiment super beau. J'espère que les gens prendront du plaisir à voir la vidéo, à voir les photos. C'est vraiment génial.
Comment se monte une chorégraphie comme ça dans les airs avec 50 personnes? Il y a quand même un peu d'entraînement.
Pour ce rendez-vous en Égypte, il n'y a pas eu d'entraînement. Les gens qui participent à ce genre d'événement sont des gens qui connaissent le job, on va dire. Ils s'entraînent en fait toute l'année. Ça fait partie de leur passion, la grande formation ou le vol relatif à 4 ou à 8, comme le citait Jeff tout à l'heure. Ce sont des choses qu'ils font tout le temps. Donc ils sont entraînés, ils sont chauds, ils sont prêts. Il suffit ensuite de les mettre à la bonne place parce qu'il y a une bonne place pour chacun. Les légers plutôt à l'extérieur, les lourds plutôt au centre. C'est un peu l'idée première pour construire une figure. Et puis aussi la rapidité des uns ou des autres. Il y en a qui sont beaucoup plus rapides que d'autres pour par exemple couvrir une distance de 200 ou 300 mètres avant d'aller chercher la figure, avant de s'y accrocher. Donc voilà, il y a surtout un placement. On place les gens en fonction, je reçois les invitations, je regarde un petit peu le niveau des gens et puis je les place. Mmh. Comme je viens de le citer. Et ça, c'est un peu la clé. C'est la clé de la réussite d'une grande formation. Donner la bonne place à chacune des personnes.
Pour rentrer dans les détails techniques, vous êtes 50 à sauter d'un avion.
Oui.
Un peu de mathématiques, l'avion va évidemment vole très très vite.
Il avançait à 230 km/h.
230 km/h.
Ça fait en gros 63 mètres par seconde.
Donc le premier qui saute et le dernier qui saute, il y a un écart qui est monumental.
C'est ça, c'est ça. On va considérer qu'entre le premier qui sort, qui passe la porte, et le dernier, puisque l'avion, les 50 personnes, l'avion ne se vide pas en une seconde. Donc entre le premier et le dernier, on va considérer qu'il y a, allez, 5 secondes. Mm-hmm. Faites le calcul. 5 fois 6, 30. Il y a 300 mètres de distance horizontale à parcourir. Sauf que entre le premier qui part et le premier, il commence déjà à tomber. On va considérer, on ne va pas rentrer dans les calculs trop compliqués, on va considérer qu'au bout de 5 secondes, le premier qui est sorti, il a parcouru entre 200 et 300 mètres. Mmh. Donc vous avez 300 mètres de distance horizontale et 300 mètres de distance verticale à parcourir pour le dernier qui est parti. Donc ça fait beaucoup de distance et pour ça, c'est ce que disait Patrick tout à l'heure, les derniers qui sortent de l'avion doivent être des mecs assez affûtés. Voilà.
Parce qu'on a combien de temps à partir du moment où on saute de l'avion et la réalisation de la figure ?
On peut avoir toute la durée du saut qui est d'environ 1 minute et 10 secondes, mais bon, le but, c'est de le faire le plus rapidement possible. Donc là, on peut dire qu'avec les gens, avec le niveau qu'il y avait, une quarantaine de secondes, la figure peut être complète, à peu près ça. Au début, ça a été un peu plus lent parce que les gens, il faut qu'ils aient au moins un saut ou deux. Il y a longtemps qu'ils n'ont pas sauté de ce type d'avion. On utilisait un Hercule C-130 avec une tranche arrière. La distance peut être assez importante. On a l'habitude de sauter d'avions plus petits. Ou pour faire des formations, ce sont des avions qui volent les uns à côté des autres. Il y a beaucoup moins de distance à parcourir. Donc allez, on va dire qu'il a peut-être fallu un ou deux sauts pour vraiment construire la figure, avoir le temps de le faire. Et puis après, on sentait que les gens étaient de plus en plus affûtés. On s'est permis de faire une deuxième figure, un deuxième point, comme on appelle ça, à l'issue du saut.
Et il y a aussi un point important, c'est que comme c'était la première fois que ça se faisait, les gens, ils ont plus passé de temps à regarder le sol que regarder le centre de la figure, regarder les petits copains. Voilà, donc Patrick a fort justement, sur le premier saut, il a voulu faire juste un seul point. Il y avait plusieurs points qui étaient prévus. Mmh. Il a voulu faire qu'un seul point pour que les gens puissent kiffer.
Profiter.
C'est-à-dire, on a ouvert plus haut que d'habitude, de façon... Et d'un point de vue sécurité.
C'est-à-dire, c'est quelle altitude ?
Bah, là, les premiers partaient à 1800 mètres. Et les derniers, enfin, on partait à 1800 mètres, on ouvrait à 1500, et ceux du centre ouvraient à un peu plus de 1000 mètres. Mais l'idée, c'était de pouvoir étager les ouvertures de façon à pouvoir se poser en sécurité sur un lieu sur lequel personne n'avait sauté avant. Mmh.
La sécurité d'abord, ça c'était le point numéro un. C'est vraiment réussir le saut, c'est quelque chose. Mais ce qui est important, c'est de finir un événement sans que personne se soit blessé. On a réussi à ce niveau-là. Personne ne s'est fait mal.
Ça a été le cas, ouais.
Ouais. Donc ça a été la grande réussite, hein, parce que les gens ont toujours un petit peu peur. Il y a quand même des cailloux, des rocs.
Il y en a des gros, ouais. Ouais. Il y en a des gros là-bas.
Ouais. Donc il faut pas aller. On peut facilement se faire une cheville ou un truc comme ça. Personne ne s'est fait mal. Et tous ces éléments-là étaient des éléments de stress supplémentaires. C'est-à-dire que dans l'avion, chaque personne était très concentrée pour réussir le saut, mais il pensait à l'endroit où se poser, comment se poser, etc., la direction du vent. Tout ça sur une drop zone, sur un terrain de saut normal, on n'y pense pas trop parce que tout est en place pour qu'on n'y pense pas, pour que ce soit confort. Alors que là, non, on était dans un endroit inconnu et c'est autant d'éléments qui s'ajoutaient au facteur stress.
Mmh. Un record comme ça, vous allez, Patrick, décider d'en faire sur d'autres lieux magiques comme les pyramides d'Égypte ?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la plus grande formation qui a été réalisée en Thaïlande, elle comprenait 400 personnes. 400 personnes, la différence est énorme entre ce qu'on a fait en Égypte et le record du monde. Mais voilà, ça se fait pas.
Vous avez participé à
ces
400 ?
Oui, j'étais capitaine de l'équipe française là-bas aux 400 en Thaïlande.
D'accord.
Et bon, là, c'est une autre dimension. Il y a énormément, il faut plusieurs avions, il faut pas juste un seul avion. Il y avait 5 Hercules C-130. C'est vraiment gigantesque comme organisation. Ça se fait pas en un seul saut, etc. Là, la différence, on n'était pas dans un record officiel. Mm-hmm. On était dans un record reconnu dans le milieu du parachutisme. Ça peut être un record Guinness aussi, par exemple. Mais l'intérêt de ce truc-là, c'est de le faire, ce type de saut, au-dessus d'un endroit comme les pyramides de Gizeh. Voilà, c'est ça qui est surtout intéressant. Et si on refait l'année prochaine, et on le refera l'année prochaine, il y aura d'autant plus de monde. Pourquoi ? Parce que c'est le lieu, finalement. C'est le lieu qui a été la clé pour l'intérêt que les gens ont témoigné pour ce type de saut. Faire une figure à 50 avec les gens qui étaient présents là-bas, c'est pas super compliqué.
Bien sûr, vous pouvez le faire à Tallard si vous avez envie.
Oui, voilà,
mais
voilà.
Le but, voilà, c'est de mettre en image un lieu mythique, un lieu légendaire.
Voilà, et puis c'est un peu ce regroupement de, comme je citais tout à l'heure, d'éléments qui sont finalement qui représente un challenge qui s'ajoute au challenge global, sauter au-dessus des pyramides, le faire en toute sécurité, etc., etc. Donc c'est un ensemble de choses, c'est un ensemble de choses. Puis à côté de ça, il y a le voyage. Les gens ont pu profiter avant ou après, découvrir le pays. Donc c'est surtout une aventure, on va dire, humaine, et sauter au-dessus des pyramides, comme le disait Jeff tout à l'heure, c'est vrai que quand on est tout... Plein de gens sont allés visiter les pyramides, mais très 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 peu l'ont vu sous un parachute. Et ça, c'est énorme. Quand on s'approche du sommet des pyramides et qu'on est à une trentaine, quarantaine de mètres au-dessus de ces monuments, on a forcément la chair de poule.
Vous avez évoqué l'idée de retourner l'année prochaine donc en Égypte. Là, c'est la trêve. Vous vous reposez. Les champions de para, c'est jusqu'au printemps. J'imagine que vous prenez un peu de temps pour vous et vous réfléchissez justement à donc un nouveau record peut-être. Retourner en Égypte ou d'autres idées, partir sur d'autres pays.
Alors les records, c'est pas des choses qui s'organisent comme ça tous les ans. C'est complexe. C'est déjà pour les participants un gros budget. Donc c'est pas des projets qui vont être faits tous les ans. Ça peut être envisagé tous les 2 ou 3 ans pour ce qui est des records du monde. En revanche, aller en Égypte, même si ce sont des records qui sont moins importants que ce qu'on peut faire de façon régulière, ça reste quelque chose de magique. Et les gens reviendront l'année prochaine. On peut très bien imaginer faire un 60. Là, on a fait 50. On peut très bien imaginer faire un 60, avoir 60 personnes. Et ces 60 personnes, on les aura, on les trouvera. Parce qu'il y a eu beaucoup de diffusion, là, sur beaucoup de photos qui sont passées un petit peu dans le milieu parachutiste. Les gens ont vu, ça a fait rêver beaucoup de gens. Et donc, ce sera un événement qui est tout à fait envisageable à nouveau pour novembre prochain.
Ouais, et à ce sujet, Patrick parlait des photos. J'espère que les gens pourront aller kiffer ces photos. Sur les réseaux, il y a aussi un élément important, extrêmement important, c'est justement les prises de vue qui sont faites par des professionnels. Lors de cette manip, nous avions un professionnel de renom qui s'appelle Juan Mayer, qui nous a fait des photos extraordinaires et qui a su se placer de façon à avoir les pyramides, les gens verront sur les photos, les pyramides au centre des figures. Il nous a fait des images magnifiques. La qualité de l'événement dépend aussi beaucoup du retour photo, du retour vidéo fait par ces professionnels.
Bien sûr.
Et il faut vraiment leur tirer un grand coup de chapeau parce qu'il a fait, en tout cas, Juan Mayer a fait un excellent travail.
Allez jeter un petit coup d'œil sur notre site alpe1.com et également sur Facebook, sur les réseaux. Vous allez pouvoir découvrir tout ça. Quel est votre plus beau souvenir de votre vol qui vous a le plus marqué? Peut-être que c'est l'Égypte, hein, ou c'est les 400, justement, en Thaïlande.
Je fais du parachutisme depuis plus de 40 ans. Des événements de cette taille, les plus importants, j'en ai pas mal. J'ai 17 records du monde à mon actif. Un événement comme l'Égypte, je dirais que ça fait partie de mes 5 meilleurs. Je ne vais pas pouvoir les classer comme ça. Il faudrait que j'y apporte un peu plus de réflexion.
Donnez-moi les 3 premiers, au moins 3 comme ça.
Bon, le premier, c'est le 400. Le 400, le record du monde à 400, ça je le mettrai en numéro 1 parce que c'est une aventure humaine incroyable. Dans un pays, c'était la Thaïlande, le pays aussi vraiment génial. Donc ça, c'est vraiment le numéro 1 pour moi. Et après, en 2, 3, bon, c'est vrai que les sauts comme le Mont-Saint-Michel, Jeff parlait tout à l'heure du Mont-Saint-Michel, j'ai eu l'occasion de sauter là-bas. Bon, finalement, en tout cas pour moi, pour la réussite d'un événement, c'est pas trop la performance, mais je dirais c'est plutôt l'émotion. L'émotion qui s'en dégage. Et là, en Égypte, il y a eu beaucoup d'émotions pendant 3 jours, tout le temps du matin au soir. Quelquefois, il y a de l'émotion juste après le saut. Mais là, ça a été tout le temps. On embarque dans l'avion, il y avait de l'émotion, on monte, il y a de l'émotion. Sous voile, n'en parlons pas, on chute aussi, bien sûr. Le posé, c'est pareil, on est tellement content d'avoir fait un saut comme ça, de se retrouver, de se taper dans les mains, de se prendre dans les bras. Et on a fait ça pendant 3 jours, à raison de 6 sauts sur les 3 jours, 2 sauts par jour, énormément d'émotions. Donc pour moi, au niveau émotion, ça a été énorme, ce voyage en Égypte.
Jeff, je pense que la réponse est à peu près la même et je crois plus il y a un côté beaucoup plus émotif également te concernant puisque ta famille était du côté de l'Égypte.
Oui, il y a très longtemps, je me suis un peu penché sur l'histoire de ma famille il y a quelques années et puis en fait, il se trouve que j'ai mon arrière-grand-père qui était ingénieur attaché à la construction du chemin de fer. Le Caire Alexandrie, je crois, que mon grand-père, que je n'ai pas connu, lui, il est né au Caire, et il se trouve que le dernier poste de mon père, qui était officier pilote dans l'armée de l'air, son dernier poste, était attaché militaire au Caire. Donc il y a une conjonction d'éléments qui fait que l'Égypte pour moi sans le savoir au départ je suis attaché à l'Égypte, j'y suis allé il y a 35 ans, j'y suis retourné cette année avec autant d'émotion que ce que vient de décrire Patrick et en plus en sautant au-dessus des pyramides, c'était vraiment magnifique.
Donc parmi tous vos records, c'est votre plus beau souvenir également là.
Alors je suis bien que Patrick ait fait de la compétition, je suis resté beaucoup plus longtemps que lui dans le milieu de la compétition. Donc mes meilleurs souvenirs étaient les titres, mon premier titre de vice-champion du monde, mon deuxième titre de vice-champion du monde, ça fait partie de mes meilleurs souvenirs. Mais en termes de sauts, de ce qu'il y a de visuel et de d'émotion, je suis d'accord. Ça a été dans l'ordre, je mettrais vraiment les pyramides, puis Palm Jumeirah à Dubaï, ça aussi c'est une construction humaine, bien que plus récente, une construction humaine qui est extraordinaire à voir, et également le Mont Saint-Michel, aussi en compétition il y a quelques dizaines d'années, les fosses d'Iguassu au Brésil, mais voilà, c'est mon trio gagnant en termes de saut de grande formation.
Merci messieurs d'avoir été avec nous ce matin sur l'antenne d'Alpe, d'avoir partagé vos émotions, de nous avoir un peu raconté les dessous de ce record qui a eu lieu donc le 16 novembre dernier. Allez voir les photos, les vidéos, c'est tout simplement extraordinaire. On a hâte de voir vos prochains défis, vos prochains challenges. On aura grand plaisir à vous accueillir tous les deux sur l'antenne d'Alpe 1. À bientôt.
Merci Jean-Philippe.
Toute la vie dans les Alpes du Sud. Alpe 1 Magazine.